c'est une grande joie pour notre Église, pour les fidèles notamment. La visite du Saint-Père après la période de la persécution communiste où toute l'Église, spécialement les évêques martyrs, beaucoup de prêtres, des moines, des fidèles ont témoigné avec beaucoup de souffrance, avec leur vie parfois, leur communion avec Rome. Le régime communiste proposait de rester éventuellement chrétien, mais de passer à l'Église orthodoxe. Donc, en sachant qu'ils ont souffert pour rester en communion avec le Saint-Père et que le Saint-Père maintenant vient visiter cette petite église, c'est vraiment une grande joie et un signe des temps.
Est-ce qu'on peut dire que cette béatification des martyrs, qui aura une visibilité mondiale, sera aussi une forme de signe de résurrection pour votre église?
Oui, c'est un signe de résurrection très fort. C'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous parlons de cette souffrance du martyr, mais il faut savoir que c'est nos évêques qui ont subi le martyr. Nous, on a la grâce de faire partie de cette Église, mais on doit bien comprendre qu'il faut marcher sur leurs pas. Alors, c'est un signe de croix qui est en même temps souffrance et gloire. Il ne faut jamais séparer les deux aspects. On n'est pas ici avec le Saint-Père pour triompher d'une certaine manière. Non, on triomphe sur personne. On rend grâce à Dieu qu'on a pu supporter cette souffrance terrible et que le bon Dieu a manifesté sa grâce et sa puissance par le fait qu'une petite église comme la nôtre est ressuscitée et maintenant le Saint-Père vient célébrer avec nous cette gloire, cette grâce, cette joie.
Alors, vous appartenez vous-même à une nouvelle génération d'évêques. Vous avez même été, je crois, l'un des plus jeunes évêques du monde, peut-être même le plus jeune évêque. Cette mémoire des persécutions de l'époque communiste, elle reste vivante et prégnante aussi parmi les jeunes générations, au sein du clergé et aussi au sein de la population.
Ah oui, tout à fait, parce que, par exemple, mon grand-père était un prêtre. Vous savez que dans l'Église gréco-catholique, on peut ordonner des hommes mariés. Alors, mon grand-père était prêtre. Et je le voyais célébrer en cachette chaque matin dans la maison. Et donc, j'ai vécu sans bien comprendre exactement quand j'étais jeune pourquoi il faut fermer la porte pendant ce temps, pourquoi il ne faut pas dire à personne, même pas à mes copains, que mon grand-père est prêtre et qu'il célèbre tous les jours. Et j'ai découvert peu à peu et je me suis retrouvé pris dans une tradition beaucoup plus grande que moi, est porté par la grâce de Dieu. Donc nous, jeunes évêques, je ne suis pas le seul, d'autres confrères évêques ont eu dans la famille cette grâce, cette souffrance, cette expérience terrible. Donc on se sent vraiment fils de cette Église et cet évêque martyr, et on est cet évêque actuellement dans l'Église roumaine. Vraiment, on est le fruit de leur martyr.
Vous avez aussi été en mission pendant un temps dans la diaspora roumaine en France. Cette mémoire ecclésiale, elle est aussi un marqueur d'unité entre les Roumains de l'intérieur et les Roumains de l'extérieur, notamment dans le reste de l'Europe occidentale.
Oui, et ça nous interpelle beaucoup. Parce que si on a eu cette souffrance du communisme, maintenant on est face à une autre souffrance. Et en tant qu'Église, on essaie de unifier, de favoriser l'intégration de nos communautés à l'extérieur. C'est une grande joie pour nous, c'est une grande joie pour eux. Mais il faut savoir, en tant qu'Église, conserver l'unité. Eux, les Roumains qui sont à l'extérieur, sont dans une tradition différente, d'une culture différente. Nos paroisses essaient d'être une espèce de tampon qui favorise un peu l'intégration, qui favorise un passage en douceur, qui vise à ne pas perdre leurs racines une fois qu'ils sont à l'extérieur, mais en même temps qu'ils soient bien intégrés dans les nouvelles communautés. Mais souvent, et ça nous interpelle beaucoup, il y a beaucoup de familles qui sont divisées à cause de cette émigration. On a des membres de familles, surtout des enfants qui restent en Roumanie, alors que leurs parents sont à l'extérieur. Là, on a vraiment besoin de beaucoup prier et de demander la lumière du Saint-Esprit pour savoir aider, pour savoir œuvrer tous, pour que dans un futur pas très loin, la Roumanie permet à toutes les familles de vivre ici, de travailler ici et de ne plus être soumis à cette supplice de la séparation.
Il y a une autre réalité complexe de la Roumanie que le pape va rencontrer chez vous, à Blaj, c'est les Roms. Comment l'Église travaille-t-elle avec la population rome actuellement?
Dans l'Église catholique, il y a une tradition dans ces directions et qui commence notamment avec les écoles de Blaje, qui sont les premières écoles en langue roumaine, mais qui ont été ouvertes à tous, aux Roumains, aux Roms, aux autres, et aussi à toutes les confessions. Ce n'était pas des écoles pour les catholiques ou pour les grecs catholiques seulement. Donc ça commence depuis longtemps, mais actuellement on a par exemple des prêtres roms, des prêtres qui ont fait la théologie, on a des séminaristes qui se préparent. Donc on a des prêtres qui suivent des communautés. Vous pouvez imaginer un des évêques martyrs, Ioan Suciu, il était très proche de la communauté de Blaje. Il allait souvent jouer au foot avec eux. Donc ce n'était pas seulement une approche pastorale classique, non, l'évêque qui parle aux fidèles. Mais il était là au milieu d'eux. Et on a été très étonnés, et eux, vous pouvez imaginer, en sachant que le Saint-Père s'intéresse à eux. Le Saint-Père a voulu aller le rencontrer là où ils vivent. Et pour eux, ça a été, quand ils ont entendu ça, ça a été vous pouvez imaginer, la joie, l'extase. Le Saint-Père de Rome, il vient en Roumanie, il vient à Blaje nous visiter dans notre quartier. C'est une tradition qui renaît après le communisme pour notre église. On a une nouvelle église pour eux dans le quartier Barbu-Lăutaru et on est très heureux de recevoir le pape là. C'est une confirmation, en effet, de la mission de l'Église, qui est ouverte à tous, qui ne peut pas faire de distinction entre ethnie, confession et autre chose. Donc, le Saint-Père, avec cette visite, nous rappelle effectivement la mission de l'Église.
Aujourd'hui, les relations avec les orthodoxes ont pu un petit peu s'apaiser après les blessures de la période communiste?
On a eu un bon moment après la visite du Saint-Père Jean-Paul II, avec le fameux Unitate Unitate, qui ont commencé à crier spontanément, catholiques comme orthodoxes. Mais après, les choses se sont un peu tendues. Malheureusement, on a eu une décision du synode de l'Église orthodoxe qui ne permet plus aux prêtres et aux fidèles de prier avec les gréco-catholiques, avec le catholique en général. Donc on ne peut même pas dire à notre Père aujourd'hui. La visite du pape François, j'espère vraiment que ça contribue à voir le vrai visage de l'Église catholique qui vient humblement se proposer, dialoguer, recevoir tout le monde, rencontrer tout le monde. D'ailleurs, la devise du pape en Roumanie, le motto, c'est « Marchons ensemble, sommergem împreună ». Donc, je pense que c'est une invitation pour tous les fidèles catholiques de différentes traditions et de différentes ethnies, mais aussi pour tous les chrétiens. Ça serait un signe très fort pour l'Europe d'aujourd'hui de pouvoir louer le Seigneur ensemble, orthodoxe et catholique, grec-catholique. Surtout parce qu'on a une tradition dans ce sens-là. Avant les années 48, où le communisme est arrivé en Roumanie et a réussi malheureusement à détruire complètement, je dirais, les relations entre l'Église orthodoxe et l'Église gréco-catholique. Avant le 48, il y avait souvent des fidèles qui n'avaient absolument aucun problème de prier ensemble, de se rencontrer, des prêtres orthodoxes avec des prêtres gréco-catholiques. Donc, on avait une bonne relation qui a été détruite. Alors, comme toutes les blessures graves, je comprends qu'il y a besoin de temps pour ça. La visite du Saint-Père, j'espère vraiment que ça se concrétise comme une guérison. Je me rappelle les premières pages après la résurrection de Jésus, quand on entend parler de la mission des apôtres, on entend des malades qui voulaient rencontrer Pierre, ou sinon, au moins que l'ombre du Pierre les touche. Ici à Blaje, on n'aura pas l'ombre du Pierre, mais le Saint-Père, François, et j'espère que sa présence va guérir beaucoup de nos blessures.